genre littéraire à part entière, la science-fiction peut nous faire évader ailleurs, dans d'autres dimensions, parfois aux confins de nos craintes comme de nos espérances. Elle peut parfois même nous dire quelque chose d'un monde futur pour le pire, et pourquoi pas, espérons-le, hein, pour le meilleur. Écoutons Walter, un érudit, nous en causer.
Pour parler de science-fiction, déjà, il faut que je dise pourquoi je lis la science-fiction. En fait, c'est une histoire aussi dans mes études. J'ai découvert la science-fiction avec Barjavel. C'est une prof de français qui m'a fait venir Barjavel. Et depuis, je me suis dit, j'adore ces univers imaginaires. Et ça m'aide à me décaler un peu du quotidien. Et moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, de ne pas lire des choses comme Victor Hugo, comme Zola, que j'aime beaucoup, mais me détacher de ça pour faire fonctionner un peu mon imaginaire. Et donc du coup après j'ai lu pas mal de science-fiction, j'ai exploré pas mal d'auteurs et je vais parler de plusieurs auteurs là tout à l'heure. Je vais parler de Philip K. Dick pour commencer, notamment un bouquin qui s'appelle Ubik. Alors c'est un bouquin qui est assez marrant. C'est donc il y a un personnage qui va recruter des gens qui vont essayer de détecter les gens qui ont des pouvoirs psy, les préconiciens et puis ceux qui peuvent vivre dans les pensées. Et dans un univers où il y a un produit qui s'appelle Ubik qui sait tout faire, qui est vendu partout. Ubik, ça te sert à être beau, ça te sert à cirer les chaussures, ça sert à tout. Et en fait, c'est une espèce d'enquête un peu fantastique, mais dans un univers très capitalistique. Et c'est plutôt intéressant. Donc, du coup, Philip K. Dick, il dénonce un peu ce qu'est le capitalisme. Et donc, du coup, moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a cette fantaisie Philip K. Dick qui va décrire un monde assez fou avec ses personnages incroyables et puis des situations un peu rocambolesque où il y a le héros principal, il doit sortir de chez lui et il faut qu'il paye, mettre des jetons à la porte d'entrée, il a plus un rond, il peut plus sortir de chez lui, donc il passe par la fenêtre et l'histoire commence comme ça, il se retrouve sur la lune pour enquêter, il y a toute une enquête qui se passe et voilà. Donc on est dans cet univers de Philip K. Dick. Alors Philip K. Dick, c'est un auteur majeur dans science-fiction, auteur années 70-80, qui va explorer qu'est-ce que c'est que le réel qu'est-ce que nous on conçoit du réel, en fait, comment on déchire le voile. Donc il va explorer plein de choses, il va aussi beaucoup inspirer le cinéma américain par rapport à ses nouvelles, notamment un film qui s'appelle Blade Runner, voilà. C'est lui qui a écrit ça. Donc ça, c'est mon premier truc, c'est mon premier amour de science-fiction, c'est Philip K. Dick. C'est super auteur. Et puis le personnage, il est un peu sulfureux. Il flirte entre les dépressions, les psychoses, et ça se ressent dans ses écrits. Voilà. Donc ça, c'est le premier auteur dont je voulais parler, Philip K. Dick, une histoire. Ensuite, moi, j'ai choisi un bouquin qui s'appelle Le fleuve des dieux, qui va expliquer pourquoi j'aime beaucoup la science-fiction, parce que dans le fleuve des dieux, on est en Inde en 2047, et l'Inde a explosé en plusieurs régions, et là on va se retrouver dans cette Inde, en fait, où le Gange est asséché quasiment, où il y a une lutte entre les hindous et les musulmans, et on va suivre 9 personnages en fait différents, notamment il y a un flic Krishna qui va enquêter sur des intelligences artificielles rebelles. On va suivre aussi un personnage qui s'appelle Tal, qui est assez chouette parce que c'est un transgenre, mais génétiquement modifié pour être transgenre, et qui est, je me souviens, un faux décorateur pour des soap opéra, des soap avec des AI qui sont des personnages de soap qui deviennent des superstars en fait. Donc il y a tous ces personnages-là. On suit une petite frappe qui fait sa thune en vendant des organes. Et voilà. Donc on suit ces 9 personnages dans cette Inde du futur. Et c'est vraiment chouette. Enfin, il y a le côté bas-fond de l'Inde. Il y a ce côté en fait technologique qui rencontre la culture ancestrale de l'Inde. Et puis il y a ce côté très poétique en fait, comment je crois que c'est le Bharati, en fait, les hindous veulent reprendre possession de leur territoire, et on comprend pourquoi en fait l'Inde a explosé. Donc c'est une espèce aussi de métaphore sur ce que sur ce qui peut se passer sur des continents comme l'Europe, par exemple. Pourquoi, en fait, l'Europe qui est unie maintenant, comment elle pourrait devenir désunie? Qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie? Des choses comme ça. Donc, c'est aussi ce qui me plaît dans la science-fiction, c'est qu'on va, quand on se projette dans le futur, on peut imaginer des situations et se dire, tiens, ça pourrait être peut-être comme ça. Comment on imagine le futur? Comment ça pourrait être le bien comme le pire? Là, on est sur quelque chose de pire, mais il imagine des choses, en fait. C'est pas, quand on pense, en fait, comment il a élaboré son scénario, on dit, on n'est pas très loin de quelque chose qui pourrait être réel, quoi. Et ça, ça me passionne bien. C'est vraiment des hypothèses, voilà, faut faire attention. Donc, c'est aussi des leçons, peut-être, pour l'avenir. Voilà. Donc, ça, c'était le, donc, je leur dis, c'est le fleuve des dieux. Et, du coup, pareil, il y a un autre, mais ça, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un peu la même chose, c'est, Bassi Galoupi qui écrit La fille automate. Là, on est en Asie. Même chose, c'est une catastrophe écologique mondiale où les espèces sont toutes déposées par des firmes en fait, et on suit en fait un Américain qui est engagé par une grosse firme internationale pour enquêter sur éventuellement un fruit endémique qu'on n'arrive pas à trouver. Et là, on est dans ce monde-là. Et c'est pareil, il y a une espèce de géopolitique entre les. Donc, ça se passe en Indonésie, je crois. Entre les Chinois ou les Japonais qui deviennent migrants parce que leur pays est à feu à sang, et donc il faut qu'ils aient la green card pour pouvoir immigrer. Donc c'est tout se renverse. Donc voilà, c'est une vision assez pessimiste du futur, mais qui est assez plausible. Donc ça, c'est une vision du futur assez plausible. Comment on se projette un peu dans le futur, comment on voit le futur. Donc ça, on est vraiment sur une dystopie, hein, quelque chose d'assez noir. Après, moi, la science-fiction, c'est toujours quelque chose, c'est un genre littéraire dans lequel on va imaginer le futur, comment on va se projeter dans le futur, avec un futur un peu plausible. Ça, j'aime beaucoup. Il y a aussi donc une autrice, Ada Palmer, qui écrit un bouquin qui s'appelle Trop semblable à l'éclair. Elle raconte, elle raconte comment en fait le monde, si on a, à part du principe, on a un système de déplacement qui est écologique, coûte pas cher et qui est hyper efficace. C'est-à-dire qu'on peut faire, Nantes-Tokyo en 15 secondes, enfin 15 minutes si on veut, quoi. Donc, elle dit que dans ce système-là, on abolit les frontières. Donc, si on a aboli les frontières, comment on définit des groupes? Comment on définit des groupes humains? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une appartenance du sol, mais qu'après, les gens, ils choisissent leur appartenance, en fait, en fonction des valeurs qu'ils veulent épouser. Donc, on peut très bien être français, mais avoir des appartenances qui sont autour de la terre avec des. Et ça, c'est vachement intéressant de voir comment un peuple se construit différemment. Et donc, du coup, elle remet en question l'idée du peuple, mais qui n'est pas du sol, qui est des appartenances idéologiques des choses. Ben après, il y a un truc qui va déconner, forcément, parce que c'est une super utopie, mais voilà, c'est un bouquin, il faut qu'il y ait une histoire, donc ça déconne à bout d'un moment, quoi. Donc, ça, là, ce que je viens de dire, c'est la science-fiction, en fait. Assez projective, en fait. On va explorer le futur, on va se dire comment va être le futur. Ça peut être plausible. Après, dans la science-fiction, il y a un truc qui est vachement chouette aussi, c'est tout ce qui est la fantasy, qui n'est pas du domaine de la science-fiction, mais c'est intéressant d'avoir ces mondes imaginaires où on peut s'échapper, on peut voyager, on peut voir des personnages incroyables dans des mondes super. Et du coup, après, moi, j'ai découvert en fait ce qu'on appelle le space opéra. Alors, space opéra, il faut imaginer... les humains dans je ne sais pas combien de siècles, on va dire 10-20 siècles, qui vont réussir à coloniser leur système solaire et puis après l'univers, quoi. Donc bien sûr, si l'humain colonise l'univers, il va être là pour coloniser d'autres planètes, donc des planètes qui vont être assez fantastiques. Donc c'est l'occasion de décrire des mondes assez incroyables où l'humain pourrait vivre, avec éventuellement des rencontres avec des extraterrestres. Avec leur écosystème et des trucs comme ça. Donc voilà. J'ai choisi moi de parler d'un bouquin qui s'appelle Hyperion. Tu as remarqué que j'aime bien les bouquins où il y a plein de personnages. Là dans le premier bouquin, il y en a 9, là il y en a 7 6, là c'est pareil, il y a 7 pèlerins. Donc l'histoire commence sur une planète qui s'appelle Hyperion. Il y a des tombeaux du temps qui commencent à s'ouvrir. Et donc c'est une grosse énigme. Et qu'est-ce que c'est que ces tombeaux du temps? C'est des artefacts qui datent des milliers d'années. Et il y a 7 pèlerins qui vont aller voir ces tombeaux parce qu'ils ont chacun une histoire à résoudre dans leur histoire, quoi. Et donc les personnages sont super. Et ce que j'aime bien, c'est Dan Simmons, il crée l'intrigue au fur et à mesure. Et l'intrigue, en fait, elle s'alimente au fur et à mesure des histoires de chacun, quoi. Et il y a des personnages qui sont super. Notamment, il y a un poète qui écrit les Contos d'Hyperion, qui s'inspire de Keats, le poète anglais, et qui va avoir un accident cérébral. et qui, au sortir de son accident, va plus pouvoir dire que putain, merde, que des gros mots, quoi. Il perd sa poésie et c'est assez terrible, donc surtout dans une mine. Et puis il a une vision, donc il recommence à réécrire ses poèmes. Et surtout son cheminement est vraiment, et c'est assez tordant, parce que tu vois ce poète qui était imbu de lui-même de sa connaissance, tu le vois en fait descendre aux enfers et pouvoir dire que putain merde fait chier, que des gros mots. Et c'est assez tordant, mais sauf qu'il y a ce côté aussi ça fait mal, parce que il est d'un talent fou ce poète, et tu vois sa reconstruction au fur et à mesure, et ça c'est chouette. Il y a plein de personnages qui se croisent, qui se côtoient, ces fleuves, et c'est en quatre volumes conséquents. Alors ce que j'adore, c'est que donc ces personnages, on est dans le space opéra pur, on va explorer plein de planètes différentes avec plein de choses. Il y a une espèce de guerre entre les humains et les intelligences artificielles sur plein de plans différents. Il y a plein d'écritures différentes et l'intrigue est assez poussée. On a une fin d'intrigue au deuxième volume et vraiment tout se résout au quatrième volume. Donc voilà, c'est vraiment abouti, c'est chouette. Donc déjà, c'est ma première rencontre avec le space opéra. C'est que Dan Simmons, il sait écrire des personnages en fait qui sont rapidement, si ce n'est attachant, en tout cas intrigants. Tous les personnages ont une histoire qui est vraiment développée. Et puis il a ce côté Dan Simmons, c'est pour moi c'est un écrivain de la souffrance, c'est qu'il va raconter une histoire dans un contexte précis, mais il va mettre les personnages dans des situations de stress et on va ressentir ce que ressentent les personnages. Ça c'est vraiment chouette. Et alors ça j'aime bien les personnages qui sont décrits, qui sont vachement et assez rapidement. On tombe vite dans leur histoire très rapidement. On s'attache vraiment à eux. Et quand on les perd, c'est dur. Et bon, il a une aussi une capacité pour décrire les paysages vraiment vraiment super. Il est assez c'est simple, précis, efficace en fait. En quelques phrases, il arrive à poser un décor, ce qui est pour moi une vraie qualité quoi. Et après, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'intrigue. L'intrigue qui est ficelée au cordeau avec les humains qui vont essayer de démonter un complot qui est organisé par d'autres humains. On sait pas trop. Enfin, au début, on sait pas trop où on va. Et qu'au fur et à mesure, on a des c'est comme une enquête policière mais cosmique avec une situation de guerre latente. Donc il y a une espèce de pression. Ah, puis j'oublie aussi, c'est qu'il y a une créature qui rôde, ça s'appelle le Gritch, on ne sait pas d'où elle vient, qui est effrayante. C'est une espèce de Dark Vador, mais un Dark Vador très flippant, voilà, vraiment, et qui rôde un peu partout, et on ne sait pas pourquoi il est là, on le sait après, et voilà. Donc il y a tout ça qui se met en place, c'est l'intrigue, les personnages, les décors, et puis l'écriture. Dan Simmons, c'est quand même un bel écrivain, il fait des parallèles avec Keats, le poète. Donc il met des fois même carrément en abîme en fait ce que Keats a pu écrire. C'est assez drôle en fait dans la science-fiction quoi. Et c'est aussi un fan d'histoire, de mythologie, donc on retrouve des choses dans son écrit. Il fait référence à ça quoi. Il y a plein de références à l'histoire, à la mythologie, voilà. Donc c'est assez ça paraît un bouquin quand je parle de l'histoire, ça paraît un peu cucul après la ligne, mais c'est assez nourri. C'est hyper riche et encore une fois, moi c'est la première fois que j'ai rencontré le space opéra quoi. Moi c'était pas mon truc le space opéra, à part Star Wars que j'aimais bien voir à la télé, mais sinon. Et donc du coup depuis en fait, depuis j'ai lu Dune après, curieusement. Et donc du coup je me suis dit le space opéra c'est intéressant, ça permet de vraiment explorer des planètes, des systèmes sociaux, poétiques différents de ce qu'on a habitué à voir quoi. Voilà. C'est vraiment le truc. Ouais. En plus il a eu le prix Hugo. Donc il y a un prix littéraire en science-fiction qui est high level, tu vois, voilà. ce qui me fait aussi aimer ça, la science-fiction, c'est que on est sur un sujet, on va une enquête quasiment, enfin un roman fleuve où il y a des personnages qui ont leur motivation, qui ont leur histoire propre, qui vont se croiser, mais dans des mondes tellement imaginaires que ça m'appelle beaucoup ça. Ça me décale du réel toujours et ça me oh, j'aime ça, moi, de pouvoir m'évader, d'imaginer des choses, des structures, des paysages, d'imaginer une planète avec deux soleils, des anneaux autour de la planète, des lunes qu'on a pu coloniser, des stations orbitales, des vaisseaux spatiaux, de la téléportation. Ça, je trouve ça assez fascinant. Voilà. J'avais aussi un bouquin assez récent que j'avais lu sur. Ça se passe sur la Lune. Ça s'appelle Luna. Donc la Lune, elle va être exploitée par les humains. Parce que sur la Lune, il y a de l'hélium-3. Et qu'il en faut pour faire la fusion nucléaire et pas la fission. Et voilà, donc la Lune, c'est un peu l'Eldorado. Il y a trois familles qui vont se partager les ressources de la Lune. Et là, on est sur un truc entre les rois maudits, Game of Thrones, Dune. En fait, c'est des luttes de pouvoir. Presque Far West, où la Lune, en fait, il n'y a pas de loi, mais tout est régi par des contrats. C'est super. C'est super. Et je crois que ça va être adapté en série, quoi. Et alors, les décors, on imagine très bien les gens qui vivent dans les canyons sous la Lune, en fait, où les villes sont vraiment dans les canyons. Donc, ceux qui habitent en bas des villes, c'est les plus riches. Ceux qui habitent en haut sont les plus pauvres, parce que les radiations, c'est là où on s'en prend plus de radiations. Donc, tout s'inverse. Ouais, puis tu suis ces familles, ces luttes de pouvoir entre les familles. La fin du premier volume est assez trash, parce que là vraiment on s'attache à des personnages et vraiment là on les perd, on en perd une bonne partie. Ouais, mais bon, c'est vrai que pardon pour les lecteurs qui n'ont pas lu Luna, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté Game of Thrones, et c'est dans le bouquin que j'aime bien, parce que il y a des personnages, on s'y attache, et des fois tu dis, ah non, pourquoi il part, voilà. Vraiment très très bon bouquin. Et en fait, au-delà de la science-fiction, c'est des auteurs qui savent écrire leur roman, quoi. Ils savent créer des personnages, des situations, ils savent créer en fait des moments de tension. C'est pas écrire un décor pour un décor. Ce décor, il sert l'histoire, il sert le propos, il est pas là pour faire décor, mais il est là pour vraiment, quand c'est sur la Lune, quand on est sur un monde où tout est régi par des contrats et pas de loi, il y a des conséquences. C'est-à-dire que c'est un peu la loi du plus fort, c'est le Far West. Donc voilà, et à côté il y a la Terre qui tire son épingle du jeu, qui essaye de manipuler ça. Voilà, c'est vraiment chouette. On peut croire que c'est des idées dingues. En tout cas, ça mérite de les penser. Oui, il y a des choses qui sont farfelues en science-fiction, on est d'accord. Mais je pense que les auteurs, de toute façon, un auteur, que ce soit de la science-fiction ou que ce soit un auteur qui fasse de la sociologie ou qui peint d'autres choses, en fait, des rapports humains, souvent c'est des gens qui sont assez clairvoyants. En science-fiction, est-ce qu'ils ont une vision du futur qui va se réaliser? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a une espèce d'analyse de ce qui se passe maintenant pour se projeter dans le futur. Après, c'est une hypothèse. Une hypothèse qui n'est pas toujours vérifiée, mais sur des points technologiques, des fois, on vérifie. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y a un truc qui m'a toujours marqué. Déjà, quand j'étais petit, j'aimais bien un peu la science-fiction, mais plutôt par les films, Star Wars, tout ça. Et on voyait dans les films, en fait, on voyait des grands écrans où les gens parlaient à travers l'écran. Et moi, j'étais petit, jamais on pourra parler avec une télé, c'est pas possible. On pourra jamais parler à une télé, c'est impossible de parler à une télé. Bon, maintenant, on a des télés dans les poches, et puis on parle à une télé. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui me font rire. On n'a pas fait encore des voitures volantes, mais ça va arriver. On voit les drones là qui commencent à arriver. Voilà. Malheureusement, après, il y a des grandes utopies de science-fiction qui te disent qu'en 2020, on va régler les problèmes de la pollution, de la faim dans le monde, de la pauvreté. On n'y est pas encore. C'est encore. Par contre, il y a beaucoup de science-fiction, comme Philippe K. Dick ou comme d'autres, ils vont pointer vraiment la dérive du pouvoir des firmes et du capitalisme, en fait. Enfin, du néolibéralisme, parce que le capitalisme, mais du néolibéralisme, en disant que certaines firmes ont tellement de pouvoir que ça devient inquiétant. Alors on n'est pas encore il y a quand même des auteurs qui commencent à parler de firmes État. C'est-à-dire que il y a des firmes État qui vont avoir des gens qui vont être embauchés par les firmes, non seulement embauchés par les firmes, mais en fait ils vont faire partie de la firme. Ils seront un corps de l'entreprise. Je pense que la science-fiction a une vision des choses. Après, moi j'ai choisi des bouquins Parce que dans la science-fiction, il y a à boire, à manger. Moi, j'aime bien avoir des bouquins qui me nourrissent un petit peu dans les références et puis dans la liste des choses. Après, il y a aussi des science-fiction que je lis pas, qui est autre chose. Où c'est plus pour le fun. Moi, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui apporte vraiment, qui m'apporte, en tout cas moi, de la réflexion. Et puis de la réflexion, tout en étant, tout en ayant ce moment où je prends le plaisir à m'évader. Voilà, je réfléchis, mais je suis dans un monde qui n'est pas le mien, donc je peux me décaler. Donc je ne suis pas dans une histoire qui a été vécue, parce que c'est dur. Moi, je trouve j'ai beaucoup de mal à lire toutes les histoires vraies, en fait. J'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je me dis que c'est vraiment passé, c'est dur. En fiction, il y a des trucs qui sont... Alors, il y a beaucoup de choses qui sont rapportées d'histoires vraies, mais qui sont un peu déformées. Mais moi, j'aime bien ce décalage qui me fait prendre un peu de respiration. Hein.
Ouais. Quel est le livre de ta vie ?
Là, je saurais pas quoi dire, parce que c'est compliqué comme question. Est-ce que c'est le livre qui m'a fait découvrir la science-fiction avec Barjavel ? Parce qu'il y a aussi d'autres. Il y a aussi le Seigneur des Anneaux. J'ai pas parlé, mais le Seigneur des Anneaux, c'est pas la science-fiction, c'est la fantasy, mais qui m'a beaucoup nourri, hein, qui a changé aussi ma vision. Je sais pas. J'aurais du mal à te répondre à ça. Quel livre le livre absolu. Non, j'arrive pas à répondre à ça. Pour moi, c'est trop compliqué. C'est pour ça que j'ai une bibliothèque assez conséquente, c'est que j'arrive pas à me débarrasser de mes bouquins, à les revendre. Je les garde tous, donc c'est compliqué ça. Il y a un cheminement, je pense. Pour moi, il y a plus un cheminement de lecture entre ce que j'ai lu avec Philippe K. Dick, ces questions un peu qui sont emprunt aussi de l'époque 70-80, de ce que j'ai lu après dans questions un peu sociétales et puis après tout ce qui passe dans l'univers. Ah, je sais pas, je botte en touche. La liseuse, c'est bien, la liseuse. La liseuse, c'est pas mal. Là, je suis quand même bien. Comme ça, je peux mettre tout ce que je veux. La liseuse, c'est pas mal, ouais. Ah, ouais. Je pense qu'il faut absolument lire Dune. Alors, j'ai pas lu Fondation. Ça, c'est un de mes grands regrets. Mes potes qui lisent la science-fiction me disent, pourquoi t'as pas lu Fondation? Donc, faut lire Fondation. Faut lire Dune. Et puis, faut lire Hyperion. Et faut pas hésiter, faut y aller. Hein. C'est des super moments. Il y a aussi, Barjavel. Et puis, il y a aussi, Bordage aussi, un auteur français qui est très très bon. Et je voulais dire aussi que dans la science-fiction, il y a aussi de plus en plus d'autrices qui sont très très douées et qui écrivent vraiment très bien. Et pour finir, on parle en ce moment des prénoms Ale, des trucs non genrés. Dans la science-fiction, ça existe depuis au moins 20 ans. Le prénom Ale, il existe notamment un bouquin qui s'appelle L'épée d'Ancillaire ou un truc comme ça, où c'est non genré. Au début, c'est un peu troublant, mais ça existe depuis 20 ans. Donc c'est pas nouveau pour nous en tout cas. Voilà.
Merci à Walter pour le partage et au Café des Cordeliers pour leur accueil.